Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
C'est cette fin de journée où on a accumulé toute la journée de boulot avec le stress, etc. On n'a pas du tout envie d'imposer à notre fils cette espèce de journée un peu stressante. On aimerait que ça soit une parenthèse un peu enchantée, un super moment de retrouvailles. Et de temps en temps, c'est compliqué.
Moi, déjà, voilà, j'ai qu'une heure avec mon enfant, il faut que j'en profite. Oui, mais comment en profiter quand, dans sa tête, on n'est pas disponible?
Ils ignoraient que ce serait aussi dur que ça, je pense.
Ouais, il doit vivre un enfer.
Pourquoi tu m'as jamais aimé?
T'aimer? Mais qui a dit que je dois t'aimer?
C'est qu'il s'agit de déconstruire l'existant pour créer du nouveau. Mmh. Et le nouveau, c'est la parentalité.
Bienvenue dans mon cabinet. Je suis Mathilde Bouichou, psychologue clinicienne spécialisée en périnatalité. Je reçois, j'accompagne des femmes, des hommes, des futurs parents, des couples aussi, autour de toutes les questions qu'ils peuvent se poser sur leur parentalité, leur devenir parent. Ça peut aller lorsqu'ils s'interrogent sur leur désir d'enfant, aux difficultés qu'ils peuvent rencontrer pendant la grossesse, aux questions d'infertilité, au parcours de PMA, et puis aussi autour de toutes les questions éducatives qu'ils peuvent se poser avec leurs enfants. Alors Héloïse, qu'est-ce qui vous amène aujourd'hui ?
Alors je viens vous voir parce que j'ai un petit garçon qui a 2 ans et demi, mm-hmm. Qui s'appelle Raphaël, et je trouve que j'ai beaucoup de difficultés avec la tranche horaire, en gros le soir où je le retrouve de 18 à 20 heures, je trouve que c'est hyper compliqué comme moment, et donc je voulais en parler avec vous.
Mm-hmm. Qu'est-ce qui se passe pour vous du coup à ce moment-là, quand vous rentrez du travail?
En fait, c'est un peu un horaire un peu compliqué, je trouve, parce que déjà, je ne l'ai pas vu de la journée, donc je suis hyper contente de le retrouver, et je pense que lui aussi. Mais en revanche, c'est évidemment un moment où moi, je suis complètement fatiguée. C'est vraiment un moment dur où j'ai vraiment je suis fatiguée. Et lui est hyper en demande, donc c'est le moment où on doit donner le bain, le dîner. Mmh. Faut jouer avec lui, être vraiment avec lui, avoir un super moment avec lui. Donc je pense que je me mets un peu la pression pour que ce moment soit agréable pour lui. Et puis lui, en plus, c'est un moment où il est aussi fatigué, donc c'est un peu, il décharge un peu toute son énergie de la journée, et il s'avère qu'il est assez énergique en plus, donc
c'est-à-dire comment ça, du coup ça va se manifester?
Et ben, il peut crier, il est hyper excité, alors moi j'ai la chance de, enfin je sais pas, c'est une chance, mais en tout cas j'ai une nounou formidable qui donne le bain, donc en général quand j'arrive, mais j'arrive un peu plus tard, j'arrive à 19h, Raphaël est en pyjama et donc il a le bain, donc j'ai pas cette étape là que je trouve ultra fatigante. En revanche, je l'ai le week-end, et le week-end par exemple à 18h, moi je suis épuisée. Et je trouve que c'est difficile de donner le bain, donc moi je donne le dîner à Raphaël. Mais le dîner, en général, il est hyper excité, il crie partout, il joue, il veut pas s'asseoir, il peut jeter plein de trucs, donc il faut être dans le partage, et en plus être là et être hyper bienveillante, parce que je l'ai pas vu de la journée encore une fois, donc je le vois très peu finalement, j'ai une heure de partage avec lui, donc j'essaie d'être à la hauteur, et en même temps, de temps en temps, je suis énervée parce qu'il écoute rien, parce qu'il crie, et j'ai du mal à le canaliser, à passer un vrai moment. Parce qu'en fait, le problème, c'est comme j'ai l'impression qu'on a beaucoup de choses à faire pendant ce laps de temps-là. C'est pas vraiment un moment hyper agréable. On est tous les deux, on joue et on est juste dans un moment où on est bien, quoi. Là, on a des tâches à accomplir.
Donc là, Héloïse, vous nous faites part de vos difficultés. Est-ce que votre conjoint partage aussi ses difficultés? Est-ce qu'il est là le soir dans ce moment-là?
Ouais. Alors le week-end, il est très présent, et c'est souvent lui qui donne le bain, par exemple. Mais en revanche, la semaine, il a tendance à rentrer un peu plus tard que moi. Donc c'est souvent moi qui suis en charge de la partie du dîner. Il lui arrive à 8h moins le quart. Donc en gros, les tâches sont faites et Raphaël est plus là. Et donc il nous reste plus qu'à jouer, à lire une histoire. Enfin, c'est plutôt la partie plus agréable, en fait. Donc le soir, je suis plutôt toute seule en semaine, et le week-end, en revanche, c'est plus simple parce qu'on partage plus les tâches.
Et le week-end, du coup, est-ce que vous êtes répartis
l'étage. Vous disiez, voilà, votre conjoint ouais. donne le bain, vous vous préparez le dîner.
Bah, en fait, on fait ce qu'on préfère l'un et l'autre. Moi, effectivement, le bain, c'est pas la partie qui m'amuse le plus. Et lui, c'est moins fatigant pour lui, donc il le fait. Et en plus, je suis enceinte en ce moment, donc ça me fatigue d'autant plus. Mmh. Et en revanche, le dîner, lui, ça l'amuse moins. Et moi, je suis plus patiente sur cette partie du dîner où tout peut partir à volo. Il peut envoyer sa nourriture partout, sa cuillère. Enfin, ça peut être un peu sport.
Mmh. Donc, votre conjoint est pas là la semaine, mais est-ce que c'est un moment aussi qui peut être difficile pour lui? Est-ce qu'il exprime lui aussi voilà, une fatigue, une difficulté dans ce moment-là?
Je pense que lui aussi, il trouve ça un peu fatigant. Mais en fait, le problème, c'est que c'est cette fin de journée où on a accumulé toute la journée de boulot avec le stress, etc. Et il faut arriver à tout laisser en dehors de la maison et rentrer. Surtout qu'on a envie, on n'a pas du tout envie d'imposer à notre fils cette espèce de journée un peu stressante. On aimerait que ça soit une parenthèse un peu enchantée, que ce moment soit vraiment un super moment de retrouvailles. Et de temps en temps, c'est compliqué de tout mettre à la porte de la maison. Et justement, je pense qu'on est un peu dans la culpabilité aussi de se dire on voit peu, donc il faut qu'on soit des bons parents à ce moment-là, en fait. Alors que le week-end, on a plus le temps de se laisser un peu. Mais là, on se dit qu'on a deux heures, ou en l'occurrence, là, c'est qu'une heure le soir, le week-end. Donc, c'est vraiment super court pour être bon, quoi.
Est-ce que vous avez essayé de mettre des choses en place pour que ça se passe mieux?
C'est compliqué parce que j'ai pas vraiment d'outils. Alors j'essaye d'être hyper calme, j'essaye de lui expliquer les choses, j'essaye de pas m'énerver en fait. Je pense que le secret c'est d'être le plus calme possible. Donc j'essaye d'être calme, mais c'est un peu le seul outil que j'ai mis en place pour l'instant.
Est-ce que vous voyez une différence quand vous restez calme?
Ouais, je trouve qu'il est très sensible à ça, et plus je suis calme, en tout cas dès que je m'énerve, ça décuple son énervement à lui. Donc je sais pas si ça change tout, il peut être hyper énervé même si je suis calme, mais je trouve quand même que ça apaise et qu'en plus c'est mon rôle moi de l'apaiser, et le seul moyen que j'ai c'est de lui parler hyper calmement, de pas m'énerver, d'essayer d'être ferme sans crier quoi.
Est-ce que, Héloïse, vous avez une idée de ce qui se passe pour Raphaël dans ce temps-là? Alors, vous nous avez un peu dit voilà, que lui aussi est content de vous retrouver, donc c'est source de beaucoup d'excitation.
Oui, mais j'ai du mal à savoir ça, parce que depuis qu'il est tout petit, Raphaël, quand on se retrouve le soir, c'est pas des moments très agréables. Quand il était tout petit, le soir, il voulait pas venir dans mes bras, il voulait pas que je l'embrasse, il tournait la tête, etc. Il était vraiment pas vieux, il devait avoir 8 mois, 9 mois, donc je me dis c'est une catastrophe, mon fils ne m'aime plus, il m'en va mort de l'avoir laissé et tout. Et aujourd'hui, quand j'arrive, il m'accueille, donc ça me fait un plaisir dingue. Mais en revanche, j'ai lu des trucs et tout, on dit qu'il a besoin d'extérioriser un peu son énervement de la journée, et que avec sa figure d'attachement, je crois, il a besoin d'être un peu il décharge un peu, j'ai l'impression qu'il décharge un peu toute son énergie en fait. Et que souvent, par exemple, dès qu'il est fatigué, en fait, il est très très excité, donc il hurle, il bouge partout, il saute comme un cabri partout, etc. Et je me dis qu'il faut que j'accompagne ça, quoi. Donc j'essaye d'accompagner ça, mais c'est vrai que de temps en temps, c'est le moment où j'ai envie de m'enfermer dans ma chambre peinarde et de surtout pas avoir à gérer un cabri.
Bien sûr. Est-ce que, Héloïse, dans tout ce qu'il y a à faire le soir, alors vous disiez le bain, alors vous arrivez, il est déjà donné, mais ensuite le dîner, puis après qu'il y a quand même un moment qui est un peu plus agréable, qu'est-ce que vous faites dans ce moment-là?
J'essaye de jouer avec lui, donc là j'ai acheté, il a 2 ans et demi, donc j'ai acheté des puzzles, on essaye de faire des mémos, on lit pas mal d'histoires, j'essaye d'avoir un moment où on est vraiment tous les deux, où on fait un jeu tous les deux, pour qu'on ait un moment de partage un peu calme. Donc en ce moment il aime bien les figurines aussi avec des chevaliers, donc voilà, je joue aux figurines avec des chevaliers le soir, mais j'aime bien ça en fait, finalement, parce que je trouve que c'est un moment assez sympa tous les deux. Mais le problème c'est que là je vous parle de ça alors que j'ai qu'un seul enfant, et je me dis que c'est un peu, pour l'instant c'est une petite joueuse, parce que la réalité c'est que des parents en ont 2 ou 3, et là c'est quand même un autre truc. Mais moi pour l'instant j'en ai qu'un, et déjà je trouve ça un peu costaud, donc avec 2, je pense que ça va être encore plus compliqué, quoi.
Oui, vous nous disiez vous êtes enceinte, et du coup,
c'est ça.
Il y a cette inquiétude de l'arrivée du deuxième.
Ben, c'est ça, je me dis
sur cette tranche horaire,
exactement.
La gestion de cette tranche horaire.
Ouais. Mais bon, je suis peut-être une petite nature, mais c'est vrai que moi je trouve qu'en fait c'est un moment de la journée où on est vraiment fatigué en plus en tant qu'adulte. Donc j'imagine que lui aussi il est épuisé, mais je trouve que nous en tant qu'adulte, c'est le moment où quand on n'a pas d'enfant, c'est le meilleur moment de la journée où on est un peu peinard et tout. Et là avec des enfants, effectivement, ça demande vraiment beaucoup d'énergie.
C'est compliqué pour vous d'être privé finalement de ce moment de détente. Voilà, vous rentrez du travail, vous avez envie de souffler, d'être peinarde. Est-ce que c'est quelque chose qui peut vous manquer dans votre quotidien, dans votre vie?
Oui, carrément. En fait, idéalement, j'adorerais avoir... C'est presque le moment de la journée que je préfère pour être... Ouais, je trouve que c'est pas facile, en fait. Parce que je trouve que c'est un moment où... c'est un moment où qui est pas évident et qui est un peu, on a envie d'être un peu tranquille. Et en fait, je trouve qu'en tant que parent, c'est peut-être le pic de la journée où il faut être le plus au taquet, le plus énergique et le vraiment bon, quoi.
Oui, alors que à l'inverse, c'est le moment que vous aimeriez avoir pour
alors
vous.
Alors physiologiquement, c'est le moment où j'ai envie de me terrer sous ma couette peinarde avec un bouquin.
Voilà. Vous nous disiez aussi, Héloïse, j'ai entendu l'importance pour vous aussi quand vous rentrez, que ça soit une joie partagée avec votre enfant. Ouais. J'ai pu entendre que ça a été un peu dur ces premiers mois quand il était tout petit, que finalement il ne vous accueillait pas comme vous auriez aimé qu'il vous accueille.
Ouais.
Merci Héloïse de nous avoir parlé de cette tranche horaire difficile pour vous. Hein. Vous nous dites bien qu'il y a quelque chose qui est un peu contradictoire dans ce moment, finalement, de la journée où il faut être à son maximum en tant que parent. Et puis que finalement, c'est le moment, en tant que personne, individu, qu'on aimerait avoir pour soi. Ce que je vous propose maintenant, c'est qu'on rejoigne dans le salon d'à côté notre experte Marjorie Molinès, qui est coach parental.
Oui, d'accord, très bien.
Bonjour Marjorie Molinès, vous êtes coach en parentalité, fondatrice de 9 mois et plus. Vous êtes formée à la discipline positive, à la pédagogie Montessori et aussi aux fleurs de Bac. Vous accompagnez des parents afin de les aider à mieux vivre leur parentalité au quotidien. Donc comme Héloïse vient de nous le dire, moi aussi j'ai beaucoup de parents dans mon cabinet qui m'expriment un peu leur désespoir, désarroi, épuisement dans cette tranche horaire de 18-20 heures, que c'est souvent un moment très difficile à gérer pour eux et puis difficile aussi pour leurs enfants et puis ils se sentent un peu démunis, comme nous l'a si bien dit Héloïse, on rentre du travail puis il y a encore plein de choses à faire, même des parents ils disent c'est la deuxième journée qui commence, un peu désespéré où ça serait sans fin, quand est-ce que le parent va pouvoir se reposer. Donc vous allez peut-être pouvoir nous donner un peu des clés pour essayer de comprendre ce qui se passe à ce moment-là et puis d'avoir des outils pour gérer ça. Tout d'abord, Marjorie, quelle serait la première clé que vous donneriez à Héloïse pour l'aider à gérer ce moment-là?
La première chose, je pense, pour s'alléger cette charge, entre guillemets, en tant que parent, c'est vraiment de pouvoir développer au maximum l'autonomie de votre enfant. Qui plus est, vous allez bientôt en avoir un deuxième. Donc vraiment, c'est ça la clé, c'est de pouvoir travailler l'autonomie de son enfant. Alors bien sûr, quand les enfants sont petits, on pense à l'autonomie avec l'acquisition de la marche, l'acquisition de la propreté, manger seul. Mais en fait, ça ne s'arrête pas là. Et ce que je vois souvent avec les parents, c'est que pour ou gagner du temps ou en pensant bien faire pour aider son enfant, on fait à la place de son enfant, par exemple, pour l'habiller, pour lui donner le bain. Mais c'est des choses aussi, on va pouvoir travailler avec son enfant pour l'aider à gagner en autonomie. L'habillement, il y a tout un travail à faire, à apprendre à son enfant comment s'habiller seul, comment enfiler un t-shirt à l'endroit, comment attacher des boutons, comment faire un lacet. Et ce qui est très intéressant, c'est de pouvoir l'habituer à très tôt, en fait, mettre ça en place. Et ça passe notamment par aménager l'espace dans la maison, parce qu'on peut lui apprendre aussi à choisir rapidement, très tôt, c'est ça que je veux plutôt dire, très tôt, le choix des vêtements en fonction de la saison. Et donc, pour qu'il puisse être autonome et gagner en autonomie, c'est avoir les vêtements à sa portée. Hein, souvent, on pense, nous, en l'aspect pratique pour nous, parents, donc on va les mettre sur des cintres, dans une armoire. Mais ça, sauf que là, ça ne va pas permettre de développer l'autonomie de l'enfant. Donc, c'est des petites choses comme ça, mais qui, finalement, dans le quotidien, peuvent se décliner aussi bien pour les jouets, l'accès aux jouets et le rangement des jouets, parce que ça aussi, ça s'apprend, ranger les jouets. L'apprentissage de l'habillement, l'apprentissage de prendre le bain, de mettre la table. Donc, c'est vraiment penser l'aménagement de la maison dans sa globalité à hauteur de l'enfant. Ça, c'est vraiment une première chose qui est très importante et qu'on a tendance à oublier en tant que parent, vraiment dans un souci de bien faire. Hein. C'est pas du tout... en se disant, il n'est pas capable. Non, c'est vraiment en se disant, on va lui simplifier la vie, on va le faire pour lui. Sauf que c'est vraiment contre-productif, cette approche-là, parce que les enfants, ils ont besoin d'apprendre, ils ont envie d'apprendre à se débrouiller seuls et à faire seuls. Donc, en fait, si on leur coupe ces opportunités-là, eh ben, on ne va pas les aider à gagner en confiance. Donc ça, c'est vraiment une première chose que je pense qui est très importante à développer au quotidien avec son enfant. Alors, effectivement, au début, c'est quand même du temps qu'on va investir pour l'aider à gagner en autonomie. Mais après, c'est du temps que vous allez récupérer. Le bain, ce n'est pas forcément la partie que vous appréciez le plus. Ben voilà, mais rapidement, il va aussi pouvoir se boucher seul, avec votre surveillance, bien sûr. Mais voilà, c'est des petites choses comme ça qui vont permettre d'alléger le quotidien, quand même.
Oui, et puis j'entends que dans l'autonomie, l'acquisition de l'autonomie, il y a quelque chose de très valorisant pour l'enfant, voilà, qui peut-être va demander du temps au début aux parents, mais comme vous disiez, qui, par la suite, finalement, le parent va en gagner. Mmh. Et puis pour l'enfant, c'est pour son développement, de sa confiance en lui. L'estime de soi, c'est extrêmement valorisant. Ouais.
Absolument. Donc ça, c'est vraiment quelque chose à encourager à tout point de vue. Pour le développement, parce que ça répond aussi aux besoins de l'enfant dans son développement, et puis aussi pour se simplifier la vie de parent.
Ce que vous nous disiez là aussi, Marjorie, c'est faire participer dans cette acquisition de l'autonomie, faire participer l'enfant dans toutes les tâches de la maison. Vous disiez, bon, voilà, peut-être qu'il peut participer à comment on va organiser le bain, mais aussi mettre la table, peut-être débarrasser, en tout cas une fois que l'enfant s'est marché, voilà, de mettre son couvert dans le lave-vaisselle.
Bien sûr.
C'est quelque chose aussi qui s'apprend et qui va aider à développer l'autonomie de l'enfant.
Absolument. C'est vraiment un accompagnement étape par étape. Et là-dessus, en fait, il y a un outil qui est très connu, qui s'appelle les routines. Peut-être que vous en avez entendu parler. C'est vraiment un outil extrêmement puissant pour développer aussi l'autonomie de l'enfant. Alors, les routines, c'est quoi ? Eh bien, c'est simplement, finalement, reprendre toutes les tâches qu'il y a à faire à la maison. Alors là, on prenait l'exemple de mettre la table ou de débarrasser la table. Comment on met la table ? Et c'est là-dedans que le parent va pouvoir accompagner aussi son enfant à développer son autonomie en découpant chacune des étapes de cette tranche horaire. Bon, ça s'applique aussi le matin, parce que il y a d'autres difficultés auxquelles on peut être confronté. Mais là, si on reste focalisé sur cette partie de la journée, c'est dès qu'on rentre à la maison, qu'est-ce qu'on a à faire ? Voilà, on rentre à la maison, on pose ses affaires, on accroche son manteau, on range ses chaussures. On se lave les mains, on va prendre le goûter, enfin si on reprend, si on élargit un petit peu. Mais en gros, c'est ça, c'est décomposer toutes les tâches. Et ça, c'est à faire avec son enfant. Hein, parce que, encore une fois, pour pouvoir impliquer son enfant, pour l'amener à coopérer, eh bien, il faut que l'enfant soit partie prenante. C'est un peu comme vous, si on vous dit, tiens, tu vas faire ça à tel moment, ça ne vous met pas forcément dans de bonnes dispositions. Si vous en parlez avec votre enfant en l'impliquant, en lui demandant dans quel sens il veut faire les choses, est-ce qu'il veut d'abord commencer par jouer un peu, décompresser avant de prendre le bain et puis après rejouer avant de remettre la table ? Voilà, c'est des choses qui peuvent se discuter. On sait ce qu'il y a à faire, mais dans quel ordre on peut les faire ? Là-dessus, on peut apporter de la souplesse et on peut donner cette opportunité à l'enfant de donner son avis.
Héloïse, est-ce que vous avez mis en place, vous, des routines ?
Effectivement, on a des routines en ce moment, mais c'est tout récent. J'essaye de le rendre justement un peu autonome en l'enlevant il faut qu'il enlève son manteau, qu'il aille le mettre lui-même. Il a un petit porte-manteau, donc il le met, qu'il enlève ses chaussures, qu'il les range toujours au même endroit. Effectivement, je le fais pas assez débarrasser. Je pense qu'il faut que j'augmente ça et que je travaille un peu là-dessus. Mais oui, on a une espèce de routine parce que tout est assez timé, donc il y a cette espèce de timing qui est un peu rassurant et qui est toujours le même. Et je pense qu'il aime bien avoir ce côté où les choses sont assez timé dans le temps. Quoi.
Oui, donc là, Louise, vous nous dites qu'il y a quelque chose qui s'est installé un peu naturellement du fait de ce timing un peu serré.
Oui.
Marjorie, pour travailler davantage sur cette question des routines, comment le parent peut faire ? C'est-à-dire, il va se poser avec son enfant, prendre une feuille, un papier, et puis noter quand on rentre, on va faire ci, ça, ou quand je rentre du travail. Tout d'abord, ça va être le temps de préparer le repas, donc de mettre la table.
Tout à fait.
C'est ça, par
exemple. C'est vraiment une discussion ouverte avec l'enfant. Alors, selon, à adapter en fonction de l'âge, bien sûr. Mais ça peut être, c'est exactement comme ça, on aborde la discussion en expliquant, le parent doit expliquer ses contraintes aussi, ses difficultés, de quoi il a besoin, et puis poser des questions. Ce qui est très important pour aussi impliquer l'enfant, c'est le solliciter en lui posant des questions. Qu'est-ce que tu as à faire d'après toi quand tu rentres de l'école, de la crèche, par quoi on commence ? Et puis voilà, il va du coup se sentir impliqué, il va donner des idées. Et puis, d'accord, super, une fois qu'on a fini de lister la tâche, l'ensemble des tâches, ok, alors par quoi on commence? Comment tu vois les choses? Et après, alors, c'est là où il faut laisser libre cours à sa créativité et puis à l'envie de son enfant aussi. Hein. Mmh. C'est comment on va le matérialiser, comment on va l'officialiser, le structurer. Mmh. Est-ce que ça va être des dessins que l'enfant va lui-même dessiner? Est-ce que ça va être des pictos que vous allez aller dessiner? Si vous avez un don particulier ou quoi, vous pouvez aussi faire le dessin ensemble. Enfin voilà, c'est, chacun après, c'est là où, à chaque famille, de mettre sa patte et de le structurer.
En tout cas, là, Marjorie, ça m'évoque un outil dont il a été question dans un autre épisode de parentalité sur lorsque les parents se séparent. On a parlé des calendriers pour aider l'enfant à se repérer quand il est en garde partagée entre chez maman, chez papa. Là, est-ce qu'il y aurait cette idée aussi, finalement, de mettre en place un calendrier de la gestion du soir, finalement, voilà, on va faire telle activité, telle autre, voilà, le bain, le dîner, le jeu, et puis, voilà, de le matérialiser, comme vous dites, avec des pictogrammes, des magnettes, voilà, il existe plein de choses maintenant sur Internet.
Absolument.
On peut le faire soi-même, ouais, sans forcément acheter non plus quelque chose.
Mais c'est ça, il existe plein de possibilités, mais... Moi, je voulais apporter une petite vigilance, on va dire, c'est que sur Internet, très souvent, les routines, c'est très, très connu. Et on va trouver des choses un peu toutes faites. Le problème, c'est que du coup, l'enfant, il n'a pas son mot à dire. Et que c'est là où beaucoup de parents disent « Ah ouais, non, mais moi, les routines, j'ai déjà essayé, mais ça ne marche pas. » Ben oui, si vous plaquez un truc tout fait comme ça à votre enfant, ben non, il ne va pas se sentir impliqué. Donc, c'est là où j'insiste, c'est très important d'avoir de la faire avec son enfant. Alors, effectivement, dans le commerce, on peut trouver plein de choses... des magnets, ou effectivement, et ça c'est super intéressant, mais vraiment n'oubliez pas de solliciter votre enfant et pas de lui plaquer un truc tout fait. Maintenant, il y a une autre chose qui peut être très intéressante aussi, c'est effectivement tout à l'heure vous expliquiez, Héloïse, que voilà, votre enfant, ça le rassurait d'avoir comme ça une succession de choses. Et c'est vrai, finalement, les routines, ça définit un cadre, hein, et c'est extrêmement rassurant pour l'enfant qui se repère pas dans le temps. Donc ça, c'est très très utile, effectivement un effet rassurant. On peut aussi l'aider parce que le temps, ça lui parle pas, hein. Il sait pas encore lire l'heure ou progresser.
En tout cas, les petits avant 6 ans, c'est vrai que c'est compliqué de se repérer dans le temps.
Oui. Alors, lire l'heure avec les aiguilles, ça peut être compliqué. Mais on peut aussi utiliser vous savez, sur le four, voilà, il y a les chiffres, ça peut être très utile. Donc, vous pouvez intégrer les chiffres dans les routines, par exemple, parce que ça, ils vont reconnaître, quoi. Et puis, lui dire, alors, t'as été regarder l'heure sur le four, est-ce qu'on est dans les chiffres? Ça peut être une idée. Après, il y a les sabliers qui sont très utiles aussi. Il y a des sabliers avec différentes durées. Donc ça peut être très utile. Et puis il y a aussi des horloges qu'on trouve pareil dans le commerce, où là vous pouvez mettre des autocollants en fonction de l'heure, et associer une activité, donc ce qui va permettre à l'enfant de se repérer. Et puis l'idée aussi de la routine, c'est à nouveau qu'il gagne en autonomie, c'est-à-dire que ça soit plus le parent qui soit toujours derrière lui à lui dire t'en es là de ta routine, petit à petit, l'idée c'est qu'il soit le chef de sa routine.
Oui, l'enfant voit qu'on est l'aiguille et sur l'étiquette ou la gommette dîner. Bon, l'enfant sait que ça va être l'heure du dîner, qu'il faut mettre la table, par exemple, aller s'asseoir.
C'est ça. Donc là aussi, c'est à nouveau l'encourager et puis lui donner confiance dans sa capacité de s'organiser, parce que c'est ça aussi, c'est pouvoir s'organiser. Organiser ce qu'il a à faire, c'est aussi organiser ce qui se passe dans sa tête, en fait.
En tout cas, là, j'entends tous les parents avec lesquels je peux aborder ces questions-là qui disent « Oui, mais de mettre tout ça en place, c'est quand même difficile et compliqué. » Alors, c'est sûr que ça demande du temps.
Oui. L'autonomie, en fait, c'est un apprentissage. Hein.
Le parent.
Oui. Alors, aussi pour le parent, effectivement. Mais tous les parents sont passés par là quand ils ont vu leur enfant progressivement apprendre à marcher, apprendre la propreté. Et là, prendre du temps pour l'apprentissage de la marche, ça gêne personne, quoi. Mais passer certains caps, là, on n'a plus le temps. Mais sauf que, l'acquisition de l'autonomie, c'est un apprentissage. Voilà. Et ça prend du temps.
Ouais. Donc, accepter que ça prenne du temps.
En avoir
que
conscience.
C'est normal, en avoir conscience, c'est aussi une manière de mieux vivre, ce temps.
C'est ça. C'est, effectivement, une fois qu'on a conscience que, c'est vrai, je prends ce recul. C'est un apprentissage. Et tous les apprentissages prennent du temps. Quand nous, on apprend une langue vivante, on sait que ça va être long. Là, c'est pareil. Et donc, ça va demander de la répétition au quotidien. L'idée, c'est qu'il n'y ait pas un enjeu dans la relation. L'intérêt aussi de ces outils, c'est d'avoir une tierce personne qui va pouvoir faire l'arbitre d'une certaine façon. Mmh. On peut avoir des comportements d'opposition, par exemple, chez les enfants. Mmh. Non, moi, je veux pas. Le parent lui dit, bah, là, tu vas te laver les mains. Non, non, moi, j'ai pas envie de me laver les mains. Mmh. Tandis que si vous faites référence à la routine, c'est plus le parent qui dit, bah, là, maintenant, tu vas te laver les mains. Non, c'est ce qu'on a construit ensemble.
Mmh. Ouais, d'où l'importance de la co-construction avec l'enfant et qui se sente aussi responsable de ce qui a été décidé. Voilà, c'est pas que le parent qui impose, mais l'enfant aussi qui s'est mis d'accord.
Il a signé un pacte.
Et du coup, exactement. Chacun des parties doit le respecter.
Absolument, c'est ça. On s'engage respectivement. Mmh. Alors, ça ne veut pas dire qu'il ne va pas y avoir des loupés, hein, ça c'est sûr. Mais ça fait à nouveau partie des apprentissages. Voilà. Ouais,
bien sûr.
Mais du coup, il y a moins d'enjeux relationnels. Parce qu'effectivement, si vous répétez sans cesse à votre enfant, bah, tiens, tu dois faire ça, tu dois faire ça, tu dois faire ça. Tout à l'heure, on parlait de, bah, c'est la fin de la journée, la fatigue. Mais la fatigue, elle est aussi valable chez l'enfant.
Ah, bien sûr. Mmh.
Et toutes les émotions qu'il a emmagasinées tout au long de sa journée et qui vont ressortir par des comportements. C'est un autre point aussi qui est important à comprendre, c'est que les comportements de l'enfant ne sont pas dirigés contre le parent. Les comportements de l'enfant, c'est un moyen d'expression.
Oui. Alors, c'est ce que nous a un petit peu dit Héloïse, voilà, qui a essayé de se renseigner, a lu des livres, qu'en effet, ce moment aussi du soir, c'est le moment où l'enfant va décharger toute l'attention accumulée et qu'il a plutôt tendance à le décharger auprès de quelqu'un avec lequel il se sent bien. Avec lequel il se sent en confiance. Voilà, ce qu'on appelle la figure d'attachement. Donc, bien souvent, c'est auprès des mamans, quand même. Bien souvent que les enfants voilà, déchargent tout ça. Et Héloïse nous a bien dit voilà, que ça peut être aussi, même si on le sait, difficile à vivre. Voilà, quand Raphaël voilà, était pas très joyeux de vous retrouver le soir, alors que vous, vous attendiez que ce moment de la journée.
Ben, non, mais c'est vrai, c'est quand même, c'est effectivement, compliqué. Je sais que c'est pas du tout contre moi et qu'il a juste besoin de... d'extérioriser tout ce qu'il a emmagasiné toute la journée. C'est vrai que c'est compliqué d'accueillir ce sentiment-là, cette agressivité latente et qui peut passer par... vous voyez, il est un peu agressif, il crie. Voilà, c'est pas toujours évident, en fait, d'accueillir, d'accueillir ces sentiments-là.
Bien sûr. Ce qui est intéressant aussi, c'est de pouvoir travailler sur les émotions avec les enfants. Parce que là aussi, c'est encore un apprentissage.
Ouais.
Et ça peut se travailler très tôt. Ce qui est très important, tout à l'heure, vous disiez que vous lisiez des livres avec votre enfant.
Ouais.
Ce qui est très intéressant, c'est de pouvoir commencer à lire aussi des livres autour des émotions.
Ouais.
L'enfant, tout au long de sa journée, voilà, il vit des expériences. Ça lui génère des émotions qu'il ne comprend pas forcément. Il ne comprend pas forcément tout ce qu'il éprouve, que ça va avoir une durée dans le temps et que, voilà, après, l'émotion va s'estomper et tout va se rééquilibrer, etc. Mais... si il ne sait pas ce qui se passe dans sa tête, et il ne le sait pas, ben c'est un côté très angoissant aussi. Et donc, c'est très intéressant, je trouve, de le faire très tôt, parce que maintenant, on sait bien, on connaît bien les émotions. Nous-mêmes, on n'a pas forcément été très bien renseignés sur nos émotions. Maintenant, on a plein de livres à disposition, et ça, c'est très important de pouvoir très tôt expliquer à son enfant... alors, de façon ludique, hein. on va pas reprendre toutes les étapes de la journée, mais dans la lecture d'un livre, ça peut être l'occasion, il y a un personnage par exemple qui est confronté à une difficulté émotionnelle, ça peut être l'occasion de poser à son enfant la question, bah, tiens toi, est-ce que tu as déjà ressenti ça, est-ce que ça te rappelle quelque chose, pour aussi un peu explorer ce qu'il a pu ressentir dans sa journée, et pour pouvoir mieux comprendre peut-être ses comportements. Pourquoi tel jour, bah, il a été plus agité, bah, peut-être qu'il s'est passé quelque chose dans sa journée. Et souvent, les enfants, ils n'arrivent pas à mettre des mots sur ce qui leur est arrivé. D'abord, ils n'ont pas tous envie de raconter ce qui leur est arrivé dans la journée. Ils n'ont pas tous cette capacité à extérioriser avec des mots. Déjà, tous les adultes n'y arrivent pas. Hein, donc, les enfants, on peut imaginer à quel point c'est compliqué. Donc, c'est intéressant comme ça d'être vraiment attentif au comportement des enfants et d'aller essayer de les explorer. À des moments où voilà, on est tranquille, on est détendu, et ça peut être là l'occasion d'aller saisir des petites, de tendre des petites perches en posant des petites questions. Et ça va permettre à l'enfant aussi de comprendre, ah oui, tiens, lui, dans cette histoire, il lui arrive ça, ben, moi, j'ai eu la même chose. Et donc, progressivement, il va pouvoir ranger un peu toutes les émotions dans des petites cases et vraiment structurer, comprendre tout ce qui lui arrive. Donc ça, c'est vraiment important, à la fois pour que lui comprenne mieux ce qui se passe, et puis petit à petit, il va être aussi plus à l'aise pour pouvoir vous l'expliquer.
Vous disiez, Marjorie, que finalement, cet apprentissage au niveau des émotions, c'est quelque chose qui peut se faire très tôt. Par rapport aux routines, à partir de quel âge on met en place des routines?
Votre enfant a 2 ans et demi?
Oui, oui.
C'est largement possible, quoi. Mmh. À partir de... Enfin, en fait, c'est lui qui va vous guider, quoi. À partir du moment où l'enfant est demandeur pour aider à ranger, pour aider à mettre la table, pour même ranger de la vaisselle, étendre le linge, ils ont envie d'aider. Vraiment, ils ont envie de participer très jeune. Mmh. Et c'est là où il faut vraiment les encourager, parce que ça ne va pas durer tout le temps. Mmh.
Les bonnes habitudes se prennent tôt.
Oui, et puis il y a des vraiment phases dans leur développement. Il y a des moments où ils ont envie d'aider, et puis à un moment donné, dans leur développement, où ils ont envie d'être avec eux-mêmes, à d'autres choses, et ça va. Mais c'est important aussi qu'ils aient appris à faire, pourquoi pas, à trier le linge pour pouvoir plus tard faire une lessive. Enfin, l'idée, à nouveau, c'est de donner un maximum de compétences à nos enfants pour en faire des adultes autonomes. Il faut garder ça en tête. Hein. Notre objectif à nous, aux parents, c'est de faire des adultes autonomes. Donc, profiter de toutes les opportunités de l'enfance pour transmettre.
Est-ce que, avant que l'enfant puisse être vraiment acteur, finalement, de ces routines-là, là, je pense, par exemple, quand au bébé, à la première année, finalement, est-ce que, là aussi, il y a un intérêt de mettre en place, déjà, des routines ou qu'il y ait quelque chose d'un peu structuré ? Alors, on l'a évoqué un peu dans l'épisode autour du sommeil, où Aude Bécard nous a expliqué l'importance des rituels, du soir, et finalement des très jeunes.
C'est exactement ça, c'est exactement le même principe. C'est-à-dire que, en tant que parent, vous appliquez une routine. Hein, et c'est ça qui va rassurer. Donc finalement, les enfants, ils apprennent comment ? Ils apprennent par mimétisme, en voyant comment on s'organise. Donc, très tôt, les enfants comprennent ces routines, et ce que je trouve très important, c'est de mettre des mots sur ce que nous, on fait en tant que parents. Et donc, j'ai envie de, pour répondre à votre question, Mathilde, j'ai envie de dire, les routines, elles se mettent en place presque dès la naissance, quoi. Quand on va commencer à changer son enfant, dire, maintenant, on va aller se changer, je vais te déshabiller, on va enlever la couche, et mettre des mots sur ce qu'on fait. Alors, pas décrire tout ce qu'on fait, je vais allumer la lumière, je vais aller ouvrir la fenêtre. Enfin bon, non, il n'y a pas besoin de mettre des mots sur tout, mais... En tout cas, oui, sur les grandes étapes, parce que, encore une fois, ça va permettre à l'enfant déjà d'acquérir du vocabulaire, de structurer sa pensée. Donc, tout se met en place. Et les routines, c'est pas juste l'autonomie, c'est vraiment aussi acquérir une façon de penser, acquérir une façon de s'organiser et puis acquérir du vocabulaire, finalement.
Oui, et puis là, dans le fait de parler, de nommer, ça permet aussi de donner de la continuité à l'enfant. Et cette continuité, elle est extrêmement importante pour lui. Parce qu'il y a des enfants, quand on change aussi d'activité, qu'on passe d'une chose à une autre, quand on passe du bain au dîner, le passage entre les deux est difficile et compliqué. Donc plus il y aura de la continuité, finalement, plus ça sera aussi facile pour l'enfant de passer d'une activité à une autre.
Il va savoir ce qui va lui arriver. C'est comme nous, quand d'un seul coup, il y a un changement, il y a une nouveauté qui arrive, c'est assez déstabilisant, ça peut être un peu inquiétant. Tandis que si l'enfant sait que on finit de s'habiller et puis après on va aller dîner, la routine, elle se pose. Et ça le rassure, effectivement. Donc c'est très très important. Et puis émotionnellement, il va être plus détendu, plus serein.
Héloïse, du coup, pour revenir sur la question des émotions, alors Héloïse nous a beaucoup parlé de ses émotions à elle, on y reviendra, mais sur les émotions de son petit garçon, Raphaël, de cette tranche horaire électrique, difficile, ou d'autant plus quand il est fatigué, les comportements peut-être inappropriés vont apparaître. Qu'est-ce que c'est, Marjorie, un comportement inapproprié ?
Un comportement inapproprié, ça va être tous les comportements qui vont nous énerver, finalement. Hein. Tout à l'heure, vous disiez pendant le repas, s'il envoie, il éjecte sa fourchette.
L'assiette toute entière remplie par terre.
Tant qu'à faire. Alors, il faut faire la part des choses entre ce qui est un apprentissage, j'ai envie de dire tout bête, on fait tomber la cuillère, c'est la pesanteur, et je recommence, et effectivement, il se repassera exactement la même chose. Donc ça, c'est quand même aussi des expériences que font les enfants pour comprendre le fonctionnement de leur environnement. Mais le comportement inapproprié, ça va être aussi « je veux pas manger, je veux pas mettre la table, je veux pas mettre ma serviette, je veux pas m'asseoir ». Voilà, ça va être de l'opposition. Et c'est une façon pour l'enfant de faire passer des messages. Ça peut être il aime pas ce qu'il a dans son assiette. Oui, j'envoie valdinguer l'assiette. Ce sont des comportements inappropriés. Maintenant, ce qui est intéressant, ce qu'il faut vraiment comprendre, c'est quel est le message qu'envoie l'enfant derrière. Qu'est-ce que ça veut dire ? C'est vraiment très important d'avoir en tête que ces comportements-là, c'est la façon dont l'enfant parle. C'est son moyen de communication privilégié. Alors, pour nous, parents, ça va être très déstabilisant. Parce que derrière, on voit le côté logistique. Il va falloir nettoyer. Il ne veut pas manger. Pourquoi ? Et moi, j'ai besoin qu'il mange parce que ça m'inquiète s'il ne mange pas. Voilà, il y a plein d'enjeux derrière. Mais ça, c'est avec notre interprétation d'adulte. Ce qui est intéressant de comprendre, c'est ce que veut dire l'enfant. Voilà. C'est la fin de la journée. Peut-être qu'à travers ce comportement... Alors, si c'est occasionnel, peut-être qu'il s'est passé quelque chose dans sa journée... Et là, ça vaut le coup d'aller creuser en posant des questions. Maintenant, si c'est un comportement qui est plus classique, entre guillemets, ben, là, il y a un travail à faire derrière. Moi, c'est ce que je fais avec les parents que j'accompagne, c'est d'aller voir les enjeux. Parce que derrière ces comportements, il y a des enjeux.
Là, vous voulez dire quand il y a un comportement inapproprié qui se répète,
qui est récurrent.
Héloïse, est-ce que vous arrivez à donner du sens justement à ces comportements inappropriés que...
Ben, je trouve ça assez compliqué de décrypter ce que ça veut dire. Et ça peut être plus ou moins facile. C'est-à-dire qu'il y a des soirs où c'est plutôt facile. Il est plutôt, enfin, ça se passe plutôt bien. Et des soirs où, par exemple, quand il sort du bain, il veut pas se mettre en pyjama. Alors il rit, mais il saute partout. Il veut pas que je l'attrape. Et donc effectivement, il s'oppose à moi parce qu'il sait que je veux l'habiller et lui il veut pas que je l'habille. Donc ça fait partie du jeu. Et en même temps, je sais pas ce qu'il veut me dire à travers ça. Et j'avoue que c'est pas très simple, je trouve, de décrypter à chaque fois le message qu'il essaye de me faire passer à travers ça. Et surtout, à quel point c'est un jeu. Et moi, en plus, il faut que j'affirme mon autorité, en même temps, sans être complètement un espèce d'ayatollah, et lui laisser aussi cette part de liberté, parce que c'est aussi sympa de se débattre pendant 5 minutes après le bain. Enfin, c'est ça que je trouve compliqué, c'est de savoir quelle est la limite, justement, entre les vraies règles et... Alors moi, je fais un truc qui marche pas mal, qu'on m'avait conseillé, c'est de mettre des timers sur un portable, en disant encore 5 minutes, et après on arrête. Effectivement, c'est ce dont vous parliez tout à l'heure, la tierce personne, ce timer et cette sonnerie de portable, en fait... C'est assez incroyable, mais mine de rien, il respecte beaucoup ça. Alors qu'au départ, j'y croyais moyennement. Et là, dès que la sonnerie retentit, ça y est, on peut passer à autre chose, etc. Mais c'est vrai que moi, je trouve que c'est assez compliqué de décrypter les choses.
Oui, c'est vrai. Non, mais il y a un vrai travail derrière à faire. Hein. Ça, c'est sûr que c'est vraiment pas simple. Mais après, il faut effectivement, ce qui est très important, c'est d'avoir des ressources, d'avoir plein d'outils comme ça pour pouvoir... jongler, parce qu'effectivement, c'est un équilibre à trouver, hein, un équilibre entre, on va en parler aussi, entre les besoins du parent, hein, parce que, voilà, vous parliez de votre fatigue, notamment aussi avec votre grossesse, et puis quand on revient de sa journée de travail, voilà, il y a un équilibre entre ses propres besoins, et puis c'est le moment où, effectivement, on a envie d'être tranquille, c'est clair, hein, mais là, non, on a beaucoup de choses à assumer, tout en prenant en considération les besoins de l'enfant.
En tout cas, Héloïse, vous nous dites aussi voilà, c'est difficile de construire qu'est-ce qui est obligatoire, de la limite, et puis qu'est-ce qui va être un peu plus souple, finalement. Ouais. Et que, alors ça, c'est quelque chose qu'on dit souvent dans parentalité, c'est la question de l'adaptation. Voilà, devoir s'adapter, d'avoir une certaine souplesse, finalement. Peut-être que s'il a envie de courir partout 5 minutes, tout nu, après le bain, est-ce que c'est vital ou pas ? Voilà, est-ce que peut-être, en mettant un timer, voilà, il peut avoir ce moment-là, d'avoir cette souplesse-là, l'écoute aussi de ce dont l'enfant a besoin.
Tout à fait. Parce que tout à l'heure, on parlait des routines, du cadre, etc. Après, il faut s'autoriser une souplesse, hein, ça c'est sûr. Il y a des journées qui ont été plus difficiles que d'autres, que ce soit du point de vue du parent ou du point de vue de l'enfant. Donc, il faut quand même s'accorder des breaks dans cette routine. Hein, s'accorder des moments où on va se dire, on va s'accorder 5-10 minutes ou... chacun va un peu à ses occupations, histoire de faire redescendre la pression s'il y a besoin. Et puis peut-être que dans cette routine, il y a un jour, on va zapper peut-être une douche. Après tout, est-ce que c'est grave si un jour on saute une douche ? Ça, c'est très personnel aussi, hein, d'un parent à l'autre. Il y a des souplesses qu'on va pas s'accorder les mêmes. Et ça va, d'accord ? Mais il faut... Ou est-ce que s'il se décale le coucher de 5 minutes, est-ce que finalement ça... Voilà, il y a des parents qui sont très, très à cheval sur les horaires. D'autres qui sont un peu plus souples. Ça, c'est très personnel. Mais il faut quand même prendre conscience que cette routine, elle est là pour définir un cadre. Mais effectivement, on ne va pas tomber non plus dans l'extrême, le respect absolu de ce cadre.
Oui, là, ça m'évoque une maman que je reçois en ce moment et qui me dit que de temps en temps, elle fait un dîner pique-nique. Qu'elle n'a pas le temps de préparer et puis que c'est trop de charge mentale pour elle. Et que du coup, elle a trouvé cette solution de faire de temps en temps un pique-nique et que si un soir, de temps en temps, ils mangent des chips ou ce dont un peu ils ont envie, c'est peut-être pas très grave.
Et je suis sûre que ça crée des super moments pour les enfants. Je pense que les enfants sont ravis quand d'un seul coup, tiens, c'est un peu différent de d'habitude. Et je pense qu'un repas version pique-nique, c'est quand même vachement sympa. Donc c'est ça aussi, c'est de s'autoriser cette souplesse. Et puis finalement, de le transformer en bon moment. Parce que c'est ça l'objectif, hein, c'est qu'on passe des bons moments ensemble. Donc allez, ok, ce soir le menu sera peut-être pas super équilibré, ben on fera mieux demain. Et alors ce qui est très important aussi, c'est de pouvoir anticiper. Alors oui, là les repas, typiquement les menus, c'est quand même un gros morceau hein, dans cette tranche horaire, la préparation des repas et les menus. C'est ça aussi qui est très important aussi en tant que parent, c'est de pouvoir anticiper un maximum les tâches de cette tranche horaire. C'est-à-dire que bien souvent, on se dit, je le ferai plus tard. Je lancerai la machine en rentrant. Je viderai le lave-vaisselle en rentrant. J'en profiterai pour faire un saut au supermarché, acheter 2-3 bricoles qui me manquent pour le dîner. J'ai envie de dire que non, ça, c'est pas du tout la bonne tranche horaire où on peut se délester, quoi. C'est vraiment, il faut vraiment bien penser la to-do list de cette tranche horaire. Et vraiment essayer d'anticiper au maximum ce qu'on peut prévoir à d'autres moments. Quitte à se lever peut-être 5 minutes plus tôt le matin. Est-ce que 5 minutes plus tôt, c'est vraiment problématique? Parce que je sais que le réveil n'est pas toujours très agréable. Mais 5 minutes plus tôt, ça laisse peut-être le temps de justement commencer à préparer une machine. Peut-être. Voilà, c'est des petites choses des fois. Parce que de toute façon, quand on veut essayer de mettre en place des changements, on ne va pas tout révolutionner d'un coup. Donc on peut peut-être s'autoriser juste une petite tâche de la faire différemment. Se réveiller 5 minutes plus tôt pour penser au menu peut-être qu'on va faire le soir, et plutôt que de penser en ouvrant son frigo, qu'est-ce que je vais faire au menu ce soir. Vous voyez, pareil, les courses, ou alors peut-être y penser le week-end, et puis se répartir les tâches avec le conjoint. Alors effectivement, quand vous êtes seul sur la tranche horaire le soir, c'est un peu compliqué, mais à ce moment-là, l'anticiper au maximum sur le week-end, et qu'est-ce qu'on peut déléguer à ce moment-là à son conjoint le week-end.
Donc l'organisation, c'est quand même une clé de aussi comment cette tranche horaire-là va s'organiser. D'ailleurs, Héloïse, vous nous disiez qu'il y a quand même une répartition. Alors plus le week-end, parce que la semaine, votre conjoint n'est pas là, rentre plus tard que vous. Mais est-ce que vous aussi, vous essayez d'anticiper, d'organiser
En tout cas, je pense qu'effectivement, la clé, c'est l'organisation. Et ça change tout. Dès que c'est beaucoup plus organisé, c'est beaucoup plus simple. Après, moi, j'essaye de faire aussi les choses le plus simplement possible. Mon fils se nourrit exclusivement de coquillettes la semaine. Non, je plaisante, mais bon. C'est vrai qu'on est, j'essaye de faire simple, quoi, parce que sinon c'est.
Mais il y a des moments où c'est comme ça.
Hein. Oui, non, mais c'est sûr, c'est pas très grave, il se transformera pas en coquillette, enfin j'espère pas, mais.
À un moment donné, il en aura peut-être marre des coquillettes, mais au moins il a eu sa période coquillette.
Ouais, mais je pense qu'effectivement, quand on organise les choses en amont, c'est beaucoup plus simple, parce que on se rajoute pas encore des questions avec savoir ce qui va dîner, etc.
J'ai des mamans là récemment qui m'ont parlé du batch cooking, je crois, en tout cas cuisinent beaucoup le week-end pour que finalement la semaine elles aient plus qu'à réchauffer. Voilà. Si les pâtes elles ont été cuites le week-end et qu'il n'y a plus qu'à les mettre dans une poêle, souvent en plus les enfants n'aiment pas trop manger trop chaud, finalement ça va prendre que 5 minutes au lieu d'en prendre 30. Et que c'est parfois.
Et puis qu'est-ce qu'on s'allège la charge mentale, choses, quoi, mais bien sûr, mais c'est exactement ça. Plus on peut anticiper. Alors effectivement, c'est de l'organisation et c'est peut-être des une nouvelle approche, des nouvelles habitudes à prendre, donc qui vont peut-être demander un effort. Mais c'est, encore une fois, j'ai envie de dire, c'est un investissement pour gagner du temps après. Et puis, qu'est-ce qu'on est plus détendu? Parce que c'est ça aussi, notre enfant, il a besoin de quoi? Il a besoin qu'on soit disponible au moment où on est avec lui. Tout à l'heure, vous parliez aussi, on rentre de sa journée de travail, on a aussi le stress de la journée. Oui, parce que vous avez aussi vos propres émotions. Donc, quel parent n'a pas testé, il a passé une mauvaise journée ou alors il n'a pas fini un dossier, il rentre chez lui, il a encore ça qui le travaille, forcément la soirée elle va moins bien se passer, quoi. Donc c'est ça qui est aussi très important en tant que parent, de se poser la question, comment je me sens moi dans cette tranche horaire? Et ça vous nous l'avez très bien décrit tout à l'heure. Vous êtes parfaitement consciente que y a des fois vous êtes stressée, vous avez envie d'être tranquille, d'être sous votre couette et donc ça aussi c'est très important d'en être conscient. Pourquoi pas déléguer un soir par semaine, peut-être s'autoriser à une soirée rien que pour vous, si vous pouvez déléguer à votre babysitter ou à votre conjoint ou à de la famille proche ou à des amis. Enfin voilà, il y a toute une logistique aussi qu'on peut mettre en place. Parce que ce qui est très important, moi je vois ça, j'entends ça beaucoup, beaucoup de la part des parents, de se dire « Non mais moi déjà j'ai qu'une heure avec mon enfant, il faut que j'en profite ». Oui, mais comment en profiter quand on, dans sa tête, on n'est pas disponible? Donc, des fois, il vaut peut-être mieux s'autoriser un break pour revenir disponible et sans se culpabiliser. Il faut être à l'aise avec ça, hein, parce que sinon, effectivement, ça ne va pas le faire. Mais ça vaut peut-être le coup de l'essayer une fois et puis de voir comment on le vit. Et si on le vit bien, bah peut-être que ça peut être quelque chose à mettre en place. Alors, peut-être pas toutes les semaines, ça peut être une fois par mois. Enfin, voilà, mais s'autoriser un sas de décompression. Parce que ça, c'est... On se culpabilise beaucoup en tant que parents à vouloir absolument bien faire.
Ah oui, moi, je reçois énormément de mamans qui, en effet, veulent être sur tous les fronts, pensent qu'elles doivent être sur tous les fronts, qu'elles doivent tout gérer. Qu'elles doivent tout gérer et puis elles s'épuisent. Et puis le temps qu'elles partagent avec leur enfant en pâtit souvent. Et du coup, c'est source aussi de frustration, de déception. Voilà, cette difficulté parfois qu'elles ont à s'autoriser à prendre du temps pour elles. Mais que bien souvent, quand elles arrivent petit à petit à le mettre en place, elles en retirent un bénéfice qui est important.
Je trouve que c'est extrêmement important de déculpabiliser les parents là-dessus. Ça n'a absolument rien d'égoïste de commencer par prendre soin de soi. Je veux dire, un médecin qui est malade, comment il va pouvoir bien soigner ses malades? D'abord, il ne va peut-être pas avoir tous ses esprits pour bien poser le diagnostic. Et puis, au risque, il va risquer aussi de contaminer ses propres patients. Donc, autant d'abord prendre soin de soi et être bien avec soi pour après pouvoir aller vers les autres. Enfin, c'est vraiment c'est dans ce sens-là que ça marche. Et c'est là où il y a vraiment beaucoup de fausses idées, de fausses croyances là-dessus.
Marjorie, je sais que vous utilisez un autre outil qui s'appelle les fleurs de Bach. Est-ce que vous pouvez nous expliquer en quelques mots en quoi ça consiste?
Alors, les fleurs de Bach, en fait, c'est une méthode qui a été mise au point par un médecin, justement. Donc, il était contemporain de Montessori. C'était vraiment... il était pionnier à son époque parce qu'il s'était déjà rendu compte dans le cadre justement de sa pratique en tant que médecin que les émotions avaient un impact sur notre santé. Donc il a décidé justement de développer une méthode pour réharmoniser les émotions dans le but de prendre soin de notre santé. Donc moi c'est vrai que dans ma pratique j'utilise beaucoup les fleurs de Bach pour rééquilibrer les émotions et ça va en fait être un grand coup de boost pour les parents qui se sentent justement... sous pression, qui ont du mal à lâcher prise, qui sont extrêmement exigeants avec eux-mêmes.
Ça se présente comment?
Alors, oui, tout simplement, en fait, c'est des élixirs floraux, donc c'est des petites fioles.
Un peu comme des huiles essentielles, finalement.
C'est un peu le principe, sauf que là, on va les prendre par voie orale. On peut les utiliser d'autres façons, mais principalement par voie orale. Donc, en fait, il y a 38 fleurs de Bach, et chaque fleur a une indication pour un état émotionnel. Donc, elle a vraiment une indication bien précise. Et c'est là où il faut quand même être à l'aise avec ses émotions pour pouvoir identifier la fleur de Bach qui va être intéressante. Et on peut associer jusqu'à 7 fleurs de Bach ensemble. Et vraiment, c'est... vous voyez, un parent qui a du mal à lâcher prise, qui est impatient, parce que des fois, on bouscule aussi nos enfants parce qu'on veut que ça aille vite, parce que... Voilà, il y a plein de choses comme ça qu'on peut travailler avec les fleurs de Bach. Et moi, c'est vraiment les parents qui découvrent les fleurs de Bach après. Et puis, ce n'est pas que pour les parents. Hein. C'est pour les enfants.
Les enfants aussi peuvent en prendre?
Ah ouais, les femmes enceintes, les bébés. C'est vraiment... Il y a plein de choses qu'on peut travailler avec les fleurs de Bach. Elles vont juste rééquilibrer l'état émotionnel. Donc, il n'y a aucun risque. Et c'est juste un coup de boost incroyable.
Marjorie, moi j'ai une petite question. Comment on peut avoir accès justement à ces fleurs de Bach et savoir lesquelles sont assez appropriées pour nous, pour nos enfants, etc.?
Alors, les fleurs de Bach, on les trouve en pharmacie, dans les magasins bio. On peut les acheter aussi en ligne sur Internet. Par contre, ce que j'expliquais, c'est que chaque fleur a une indication précise pour une émotion. Donc c'est là où ça peut être important d'aller consulter un conseiller en fleurs de Bach pour aller identifier quelles sont... Généralement, on vient avec ses difficultés. Hein. On a du mal à identifier l'émotion derrière. Donc, c'est tout le travail du conseiller en fleurs de Bach d'aller identifier les émotions qui se cachent derrière vos difficultés et pour aller vous recommander les fleurs dont vous allez avoir besoin. D'accord ? Parce que parmi les 38 fleurs, donc chaque fleur a son indication et c'est là où vous avez besoin d'avoir un œil.
Oui, là, vous dites quand même que ça peut être nécessaire d'être accompagné dans le choix des bonnes fleurs pour que l'action soit concrète, pour que ça fonctionne.
Oui, parce que c'est le problème avec les fleurs de Bach, c'est que si on ne choisit pas la bonne, Eh ben, ça n'a pas marché. Mmh. Et donc là, on va se dire, oh, ben, les fleurs de Bac, ça marche pas. Et c'est pour ça qu'il y a beaucoup de gens qui sont déçus aussi sur les fleurs de Bac. C'est parce que finalement, ils n'ont pas choisi les bonnes. Et c'est vrai que c'est dur, des fois, de faire le point avec ses émotions. On a besoin d'avoir un effet miroir, de prendre du recul sur nos situations. Et c'est là où une tierce personne va pouvoir nous aider. Donc, c'est vrai que moi, je préconise toujours, quand on veut découvrir les fleurs de Bac dans de bonnes conditions, et pour vraiment en tirer un vrai profit, d'aller consulter quelqu'un spécialisé dans les fleurs de Bac qui va vous aider à découvrir les fleurs de Bac, découvrir la méthode et bien choisir les fleurs dont vous avez besoin à ce moment-là. Parce qu'en plus, c'est ça, les émotions, elles changent. Mmh. Donc, à un moment donné, les fleurs de Bac dont vous allez avoir besoin, eh bien, 3 semaines, 1 mois après, ça ne sera plus les mêmes. Mmh. Donc, il y a vraiment un apprentissage à faire autour des fleurs de Bac. Mmh.
Bon,
donc
merci,
moi, quand j'ai découvert Marjorie. Ça, je me suis dit, il faut le partager. Quoi.
Merci beaucoup, Marjorie. Voilà, comme vous l'avez si bien dit, voilà, cette tranche horaire, vous aussi, vous nous l'avez dit, Héloïse, voilà, qui peut être difficile, peut aussi être source de plaisir, de joie. Voilà. L'importance pour ça de co-construire avec les enfants les routines, voilà, que ça ne soit pas quelque chose que le parent impose. Et puis l'importance du côté du parent de réfléchir aussi sur lui-même, sur son état émotionnel, voilà, de trouver des outils pour lui-même pour pouvoir être disponible pour ses enfants.
Tout à fait.
Je recommande souvent des lectures à mes patients. Héloïse, est-ce que, alors vous nous avez dit, vous avez lu plein de trucs, est-ce qu'il y a quelque chose que vous aimeriez recommander aux parents qui nous écoutent ?
J'ai acheté un bouquin qui est assez connu, qui s'appelle « La couleur des émotions » pour Raphaël, qui est assez joli en plus, parce qu'il est en papier.
En pop-up.
Exactement, en pop-up et tout, donc ça les amuse pas mal. Et voilà, ça, j'ai acheté ça et j'ai trouvé ça très bien.
Ok, merci Héloïse. Et vous, Marjorie, qu'est-ce que vous recommanderiez aux parents qui nous écoutent ?
Alors effectivement, là, La couleur des émotions, il est fabuleux ce livre. Moi, je le recommande à tous les parents de commencer par ça. Hein. De ne pas hésiter d'ailleurs à le proposer plusieurs fois à son enfant, parce que des fois, il n'adhère pas, mais ça ne veut pas dire qu'il ne va pas adhérer plus tard. Donc ça, c'est vraiment c'est une excellente base.
Après, il y a une bibliographie pour les enfants qui est quand même assez fournie. Là, je pense à Grosse colère, La colère de Catherine Dolto.
Il y a plein de choses. Ouais, ouais.
Voilà, il existe alors, quand même beaucoup de choses.
Mais ceux-là sont ciblés sur la colère. D'accord. Ouais. Tandis que La couleur des émotions, c'est vraiment commencer par qu'est-ce qu'une émotion et quels sont les différents types d'émotions. Là, c'est vraiment les premiers pas, j'ai envie de dire, avant d'être focalisé sur un type d'émotion.
Tout à fait.
Moi, je pense que pour apprendre à l'enfant à comprendre un peu ce qui se passe dans sa tête et dans son corps, c'est bien de l'aider avec ce livre-là. En tout cas, je trouve que c'est vraiment une aide, un support extraordinaire. Il y a, moi, tous les livres de Catherine Guéguen que j'aime beaucoup, qui sont aussi très intéressants. Et sinon, moi, je pensais à Héloïse par rapport, tout à l'heure, on abordait un petit peu Montessori. Il y a le livre de Charlotte Poussin que j'aime beaucoup, qui est Montessori de la naissance à 3 ans. Quand je parlais tout à l'heure d'aménager un peu son espace, les activités aussi qu'on peut mettre en place, etc., ça peut être aussi une bonne ressource pour vous si vous avez envie d'explorer un petit peu cette piste-là.
Ouais, génial, ok.
Ok, alors moi je pense aussi à un livre qui est presque un classique et au cœur des émotions de l'enfant, voilà, d'Isabelle Filioza, qui permet aussi de justement décoder les comportements inappropriés, voilà, de donner un peu du sens à ce que vient dire l'enfant et de ne pas percevoir ça comme une attaque voilà, de l'enfant sur le parent.
Tout à fait.
Merci vraiment beaucoup à toutes les deux. Merci Héloïse d'avoir partagé avec nous vos difficultés. Merci beaucoup Marjorie Molinet. Je rappelle que vous êtes coach en parentalité, fondatrice de 9 mois et plus. Merci pour tous vos conseils, vos clés, tout ce que vous nous avez donné aujourd'hui. Merci beaucoup. Pour ceux qui nous écoutent, je vous rappelle que vous pouvez nous suivre sur Facebook, Instagram et nous écrire à l'adresse suivante podcastparentalité@gmail.com. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker et à noter et on se retrouve dans un prochain épisode.
Hold up. As humans, we're naturally driven by the search for better. But when it comes to hiring, the best way to search for a candidate isn't to search at all. Don't search, match with Indeed. When I was looking to hire someone, it was so slow and overwhelming. I wish I had used Indeed. If you need to hire, you need Indeed. Indeed is your matching and hiring platform, with over 350 million global monthly visitors according to Indeed data, and a matching engine that helps you find quality candidates fast. Ditch the busy work. Use Indeed for scheduling, screening, and messaging so you can connect with candidates faster. And Indeed doesn't just help you hire faster. 93% of employers agree Indeed delivers the highest quality matches compared to other job sites, according to a recent Indeed survey. And listeners of this show will get a $75 sponsored job credit to get your jobs more visibility at Indeed.com/podcast. That's Indeed.com/podcast. Terms and conditions apply.